Monsieur le Président, c'est un privilège particulier pour moi d'avoir cet entretien avec vous. Depuis le 7 novembre 1982, le 4 août 1983, en passant par le 17 mai 1983, vous avez frappé l'imagination à travers le monde, fasciné certains et rendu inquiets d'autres. Toutefois, 8 mois après votre accession au pouvoir, beaucoup se demandent ce qu'est la révolution démocratique et populaire que vous dirigez. Pouvez-vous nous la définir, s'il vous plaît?
La révolution démocratique et populaire qui vit en Volta depuis le 4 août est le résultat de tergiversations, de luttes internes, de déchirements profonds qui ont conduit le peuple voltaïque à comprendre que seul un choix déterminé et résolu entre ses intérêts à lui et ceux qui lui sont imposés par ses ennemis, seul un tel choix pouvait lui permettre d'être réellement maître de son destin. Aujourd'hui, ce choix est fait, mais en fait de choix, nous devons même dire que c'est simplement une évolution normale. C'est simplement un processus tout à fait qui était tout à fait prévisible, historiquement et scientifiquement vérifiable, qui amène aujourd'hui les voltaïques à vivre la révolution plutôt que les autres errements qu'ils ont expérimentés de par le passé.
Et comment définissez-vous cette révolution?
La révolution voltaïque se définit comme étant d'abord une révolution par les voltaïques, pour les voltaïques, à savoir qu'elle n'a été imposée de nulle part, à savoir qu'elle n'a été inspirée, elle n'est le résultat d'aucune pression. Elle est simplement une évolution, un processus tout à fait voltaïque. Pour les voltaïques, en ce sens aussi qu'elle n'a aucune prétention, aucune ambition, et surtout aucune illusion de s'imposer à qui que ce soit et où que ce soit. Seul au voltaïque qu'elle s'impose. Cette révolution, elle est, de ce point de vue idéologique, une révolution démocratique et populaire. En ce sens que c'est le peuple, et rien que le peuple, qui sera le début, le commencement de la révolution, l'alpha et l'oméga. En ce sens aussi, démocratique, que la majorité, la grande majorité, sera celle dont il faudra tenir compte, et non plus la minorité qui jusque-là, en Volta et ailleurs aussi, comme nous le constatons, a pu s'imposer, a pu faire sa loi.
Quel est votre programme économique?
Notre programme économique découle de notre choix idéologique. Quand on dit peuple, bien entendu, on s'oppose à toutes les minorités bourgeoises qui exploitent, qui oppriment. On s'oppose aussi à tous ces valets locaux qui font aujourd'hui le jeu des multinationales, de l'impérialisme. On s'oppose également à tout ce qui privilégie le profit et rien que le profit au détriment du peuple et de son bonheur. Bien sûr, notre programme économique vise dans un premier temps, dans la phase actuelle, à mettre les produits essentiels à la disposition du maximum, à la disposition du peuple. Bien entendu, nous ferons un choix entre les produits de luxe et les produits essentiels. Nous ferons un choix entre la satisfaction des villes au détriment des campagnes et la satisfaction générale. Nous ferons également un choix entre le fait de tolérer, d'accepter ou même d'encourager les investissements étrangers chez nous, et le pillage sauvage de nos potentialités. En un mot, Notre programme économique est un programme qui se veut être une philosophie de la satisfaction des larges masses populaires, mais aussi d'un point de vue des échanges, une acceptation de tout investissement à condition qu'il respecte nos règles, nos conditions de dignité pour le peuple voltaïque, honneur pour le peuple voltaïque, non-immixtion dans nos affaires intérieures, souveraineté, avantages mutuels. À ces conditions-là, nous acceptons aussi les investissements étrangers. Et nous ne leur permettrons pas, bien entendu, d'imposer à notre pays, à notre peuple, des consommations qui seraient finalement un mal pour notre peuple. Je donne un exemple. Ailleurs, on interdit la publicité du tabac. Mais c'est dans ces mêmes pays que l'on fabrique des films de publicité pour le tabac pour venir les diffuser chez nous. Parce que cela rapporte. Et il y a bien des produits qui intoxiquent les Africains, qui intoxiquent leur corps, qui intoxiquent leur esprit, mais qui, parce qu'ils rapportent tellement d'argent, sont soutenus par les puissances d'argent qui sont ça et là. Ce qu'ils n'ont pas réussi à imposer ailleurs, ils viennent l'imposer à nous. Mais la révolution économique, c'est aussi le choix de ce que l'on veut consommer et de ses intérêts.
Monsieur le Président, comme vous le savez, est surtout fondé sur l'expérience de précédentes révolutions prometteuses en Afrique. Certains sont plutôt sceptiques et disent que le danger que les leaders charismatiques courent toujours, et vous êtes de la vie générale un leader charismatique, c'est que le peuple attend trop d'eux et très vite. Et certains, justement, de ces sceptiques se demandent au juste ce que vous avez pu réaliser en 8 mois pour au moins entretenir l'espoir de lendemain meilleur, Monsieur le Président.
Pour entretenir ces espoirs, nous avons simplement choisi une voie qui consiste à ne pas faire de la démagogie. Une voie qui consiste à ne pas semer des illusions dans les esprits. Une voie qui consiste à mettre les voltaïques face à leur réalité. C'est-à-dire que la haute volta sera ce que les voltaïques auront décidé en âme et conscience, en calculant les sacrifices à payer, en calculant les intérêts à attendre, en calculant le bonheur qui peut en résulter. Bref, un choix responsable. Encore que nous insistons beaucoup pour que les voltaïques établissent leur propre échelle des valeurs, pour ne pas considérer que l'homme heureux, c'est celui qui vit comme son voisin. Non, l'homme heureux, c'est celui qui se crée une idée, c'est celui qui se crée une philosophie et qui réussit à réaliser cette philosophie, qui réussit à réaliser cette idée, à vivre sa vie, non pas à imiter. Les imitations font toujours des malheureux. Ailleurs, l'on estime que l'homme développé, c'est celui qui a un numéro de téléphone, un numéro de téléx, celui qui a le maximum de magnétoscopes, celui... On calcule le bonheur d'après des quotas, le nombre de tonnes d'acier par habitant. Mais peut-être qu'ailleurs, peut-être qu'en Volta, nous définirons un autre type, une autre forme de bonheur qui sera notre bonheur à nous. Mais ce serait dangereux, ce serait triste que de vouloir imiter les voisins. Et c'est pourquoi nous disons que les voltaïques doivent être heureux chaque fois qu'ils réalisent leurs objectifs. Leurs objectifs doivent être conformes à leurs possibilités. Et ils ne doivent pas avoir honte de vivre leur réalité. Ceux qui vivent dans des pays chauds, excessivement chauds, et qui veulent de temps en temps organiser chez eux des sports d'hiver sont bien obligés d'importer la neige. Nous sommes dans un pays chaud, nous organisons des sports de pays chaud. en chemisette et en short, et cela sera aussi une forme de bonheur sportif. On n'a pas besoin du ski, on n'a pas besoin de skier pour être heureux en sport. Il y a d'autres sports adaptés.
Parlez-nous maintenant des fameux CDR, Comité de défense de la Révolution, qui, dit-on, sont les yeux et les oreilles de la Révolution. Les sceptiques dont je parlais tout à l'heure se demandent si vous ne courez pas le risque de voir ces gens de milice échapper à tout contrôle, étant donné que tous les partis politiques ont été supprimés dans le pays.
Pourquoi vous les trouvez fameux ? En quoi est-ce que vous les trouvez fameux ?
On en parle beaucoup dans la presse célèbre, si vous voulez.
C'est bien dommage que la presse célèbre soit justement la moins bien informée. Cela prouve une fois de plus que cette presse est célèbre en ce sens qu'elle peut flatter la curiosité, le goût du sensationnel de ceux qui payent, de ceux qui l'alimentent. Nos CDR n'ont rien de fameux. Nos CDR sont simplement une structure qui vit en harmonie, qui vit de manière authentique la révolution. Sans nos CDR, il n'y aurait pas la révolution à ce jour. Heureusement que nous avons les CDR. Nos CDR constituent le cadre idéal de mobilisation. C'est à l'intérieur de ces CDR que nous nous exprimons. C'est à l'intérieur de ces CDR que le peuple vit réellement les mots d'ordre de la révolution, en ce sens que le peuple a le pouvoir économique. Et nos CDR interviennent dans la vie économique et interviendront de plus en plus au fur et à mesure que leur niveau va se lever, au fur et à mesure qu'ils seront en mesure de gérer, ils géreront. Au fur et à mesure qu'ils seront en mesure de contrôler, ils contrôleront. Et déjà, nous apercevons qu'ils contrôlent bien et font mieux le travail que les brigades de prix qui, jusque-là, étaient en faible nombre et comportaient en elles, ces brigades de prix, des éléments corruptibles. Évidemment, tout homme étant corruptible, tant qu'il ne vit pas les garde-fous, tant qu'il n'est pas canalisé par des garde-fous collectifs, il tombe dans la corruption. Nos CDR traduisent aussi notre volonté de donner au peuple le pouvoir administratif et politique. Tout le territoire est recouvert des CDR. Nos CDR traduisent aussi la volonté de donner le pouvoir militaire au peuple. Parce que nous considérons que la défense d'un peuple est l'affaire du peuple, non pas celle d'un groupe d'hommes spécialisés. Un groupe d'hommes spécialisés et payés pour cela, soit ils se constituent en mercenaires, soit alors ils tombent dans l'inefficacité. Et c'est notre peuple qui nous défend. Depuis que les CDR existent, ils ont déjoué des complots. Ils ont repoussé des agressions. Depuis que nos CDR existent, ils ont organisé la distribution des vivres. Ils ont organisé des travaux d'intérêt collectif, public. Ils ont contrôlé l'administration. Ils ont dénoncé des voleurs, des détourneurs. Ils ont fait en sorte que la révolution puisse pénétrer tous les secteurs du pays. Et nos CDR sont en train d'évoluer. Bien entendu, progressivement, nous modifions l'organisation de ces CDR. Nous leur donnons une nouvelle forme, une nouvelle présentation. Bien entendu, nous tirons aussi les leçons des échecs, notamment échecs qui sont produits par les infiltrations d'éléments réactionnaires qui ont voulu nous prendre à l'intérieur de notre propre citadelle. Et de manière dialectique, nous corrigeons nos erreurs pour avancer vers des formes toujours meilleures. Et nos CDR existent et existeront davantage. Aujourd'hui, chacun de nous s'aperçoit, se demande comment nous n'y avons pas pensé plus tôt. Pourquoi la révolution n'est venue que seulement le 4 août 1983. Elle serait venue plus tôt, que nous aurions évité beaucoup d'autres choses.
Parlons aussi d'une autre structure très importante, les TPR, les Tribunaux Populaires Révolutionnaires. Êtes-vous satisfait de leur performance à ce jour ?
Il m'est difficile de vous répondre, de vous dire si je suis satisfait ou pas. Mais je voudrais connaître plutôt votre sentiment. Je vous dis qu'il m'est difficile de dire que je suis satisfait, parce que nous sommes tous des hommes. Et nos désirs, nos visions ne sont pas toujours ce qui se réalise. Et les TPR, les tribunaux populaires révolutionnaires, sont une autre école de la démocratie et du centralisme démocratique. Je vous dirais, par exemple, que les condamnations qui sont prononcées au niveau des tribunaux populaires révolutionnaires sont parfois en deçà de ce que moi-même je voudrais. Mais je ne peux intervenir, je ne peux imposer rien à personne. Ayant moi-même créé les tribunaux populaires révolutionnaires, je suis et je subis. Et je peux être traduit demain devant les tribunaux populaires révolutionnaires. Il est interdit de mettre les climatiseurs en marche. Si je mets mon climatiseur en marche, demain, nécessairement, je serai obligé de passer devant les tribunaux populaires révolutionnaires. Donc, je suis moi-même victime d'un système que j'ai mis en place. Mais, victime au sens heureux du terme, car ce système m'oblige, moi et tout le monde, à être propre. Quoi que l'on fasse aujourd'hui, on est sûr qu'il y aura au moins un voltaïque, sinon des milliers de voltaïques, pour s'en apercevoir et le dénoncer. Nous sommes obligés d'être vertueux, non pas que nous soyons des hommes intrinsèquement vertueux, nous n'avons pas cette prétention, mais parce que nous sommes dans un système qui ne nous permet rien d'autre que la vertu. Et les tribunaux populaires révolutionnaires sont une très bonne chose. Regardez ces biens que nous avons récupérés. Regardez ces sommes folles que nous avons récupérées et que nous récupérerons. Regardez cette clarification de la vie nationale, économique, sociale. Eh bien, je disais tout à l'heure que nous regrettons de n'avoir pas eu le 4 août beaucoup plus tôt. Mais si nous avions eu le 4 août, depuis le 5 août 1960, c'est-à-dire depuis la date où nous avons été proclamés indépendants, si nous l'avions eu depuis ce temps-là, ben, soyez certains que les milliards, les centaines de milliards qui ont été détournés auraient servi au peuple. Comment pouvez-vous comprendre que dans un pays comme le nôtre, certains se payent le luxe de prendre un avion pour aller jusqu'à Dakar, pour emprunter l'avion Concorde, simplement par curiosité, et pour atterrir plus tard dans une capitale européenne, parce que l'on y passe un film sensationnel qu'il voudrait être le premier à voir? Comment pouvez-vous accepter qu'il y ait un train de vie de ce genre à côté de ceux qui sont obligés de parcourir chaque jour 15 km et davantage pour avoir une maigre, une eau boueuse, saumâtre, avec sans espoir de retrouver même leur santé, vivant au jour le jour, se demandant pourquoi donc ils sont nés, condamnés à souffrir, condamnés à être dans la misère. Ils sont combien qui, lorsqu'ils ont le rhume, le simple rhume, prennent leurs avions et se retrouvent dans les cliniques les plus grandes de France et avec ces jours payés par l'État, par le budget de l'État, alors que d'autres ici, des milliers et des milliers par jour, se retrouvent sans soins, se retrouvent à l'hôpital avec des fractures multiples entre la vie et la mort et sans aucun médicament. Comment pouvons-nous accepter cela? Comment pouvons-nous accepter qu'un médecin, si qualifié soit-il, quelles que soient les universités, les meilleures facultés qu'il a pu fréquenter, vienne dans ce pays et détourne les peu de médicaments que nous avons et que nous restions impuissants, les bras croisés, simplement parce que ce monsieur a une certaine notoriété? Non, nous le mettons face au peuple. Qu'il réponde de ce qu'il a fait, qu'il réponde devant le peuple de ce qu'il a fait. Et c'est ce que nous faisons. Et nous savons que l'on nous reproche dans certains pays d'avoir traîné des chefs d'État, des ministres, des dignitaires devant des tribunaux pour la bagatelle de 1000 francs. Et nous disons que même si c'était 1000 fois moins que 1000 francs, eh bien, il y aura toujours une raison de traîner qui que ce soit devant ces tribunaux-là. Parce que le bien du peuple, si petit soit-il, est sacré. Et ceux-là qui nous portent la critique devraient commencer par regarder autour d'eux et chez eux. Tous les détournements qu'ils ont chez eux, qu'ils essaient vainement de camoufler du reste. S'ils avaient organisé chez eux des tribunaux populaires révolutionnaires, leur peuple serait beaucoup plus heureux. Ils diminuent leurs salaires. Pendant ce temps, ils laissent des ministres voler des milliards et des milliards. Ces milliards auraient suffi pour augmenter les salaires, pour éviter les diminutions des salaires. Nous avons décidé de vivre avec notre pauvreté. Mais la pauvreté, quand on veut l'assumer et ne pas en avoir honte, implique que l'on soit rigoureux. C'est ce que nous faisons. Nous avons décidé de mettre fin à la corruption. Et mettre fin à la corruption, notre corruption ici, je signale en passant, a été copiée de certains pays voisins qui, eux, ont fini par considérer la corruption comme étant dans les mœurs. Et celui qui ne détourne pas est considéré chez eux, comme c'était le cas aussi chez nous, comme des hommes, un homme marginal. Nous avons décidé maintenant de faire de celui qui a détourné un ennemi du peuple et sanctionné comme un ennemi du peuple. Eh bien, nous avons décidé de lutter contre la corruption. On ne lutte pas contre la corruption en créant une brigade, en créant une police spéciale. Non, on lutte contre la corruption en donnant le pouvoir au peuple de dénoncer. Parce que l'on peut corrompre une brigade de 20 personnes, de 100 personnes, de 1000 personnes. On ne peut pas corrompre un peuple. Et puis, de toute façon, celui qui peut donner des millions et des millions à chaque élément du peuple pour le corrompre, mais il aura rendu service. Nous souhaitons de tels corrupteurs.
Monsieur le Président, récemment, il y a eu un mouvement syndical. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles la grève du syndicat national des enseignants africains de Haute-Volta était en fait une tentative de diversion pour un débarquement de mercenaires 3 ou 4 jours après. Qu'en est-il au juste ?
Je vous dis tout droit que si je vous réponds, c'est parce que je pense que vous avez le souci d'informer vos auditeurs et c'est une bonne chose. Il y a eu un mouvement syndical, c'est exact. Mais nous savions que ce mouvement syndical n'était qu'une couverture pour un mouvement de déstabilisation. En effet, nous avons en notre possession des renseignements qui montrent clairement qu'un débarquement était prévu pour le 25 mars, qui montrent clairement qu'une déstabilisation était prévue pour cette date-là. C'est ainsi que certains de nos opposants, comme Joseph Kizerbo qui est à l'étranger, a eu à cette même période à intervenir au niveau de la télévision française, FR3, à discuter avec le ministre français de l'Agriculture en duplex, lui qui était à Bruxelles, ce qui donnait donc une large audience à son émission. Mais nous savons de quoi tout cela procédait. Il s'agissait simplement de rappeler au bon souvenir des uns et des autres le Kizerbo qui était en train de finir de lui-même, parce que, bien sûr, ce monsieur devait revenir ici et trôner en Volta. Nous savons également que c'était un prétexte parce que lorsque l'on demande pourquoi il y a eu la grève, on vous répond, on donne une réponse. Est-ce que vous-même, vous avez parcouru la ville? Quels sont les motifs de la grève? Vous ne pouvez pas répondre. Bien. Moi, je peux vous répondre. Les motifs de la grève étaient une grève déclenchée pour exiger la libération de 3 syndicalistes arrêtés. Pourquoi ces 3 syndicalistes ont été arrêtés? Ils ont été arrêtés dans un mouvement subversif. De l'argent est entré ici, 250 000 dollars. Ce n'est peut-être rien ailleurs. Mais pour la Haute-Volta, dans certains pays, au Chili, il a fallu bien plus que 250 000 dollars pour déstabiliser Allende. Mais chez nous, c'est une fortune. 250 000 dollars, ça ne court pas les rues. C'est une fortune. Eh bien, ils ont reçu de l'argent pour soutenir, pour organiser la grève. Ils ont effectivement touché beaucoup d'enseignants et ont réussi à mobiliser beaucoup d'entre eux. Ceux qui n'ont pas eu l'information juste. Mais Ils ont commencé leur protestation beaucoup plus tôt. Et quand on leur demande pourquoi protestaient-ils, ils disaient parce qu'ils ne voulaient pas de leur ministre de l'Éducation nationale qui refuse de les recevoir. Mais le ministre de l'Éducation nationale, il n'était pas là le 4 août, il n'était pas là le 6 août, le 7 août, lorsque ces mêmes dirigeants syndicaux ont déclaré qu'ils combattraient le CNR, lorsqu'ils ont déclaré qu'ils étaient opposés au CNR, au Conseil national de la Révolution. Le ministre n'était même pas encore là. On ne savait même pas qui serait ministre de l'Éducation nationale. Le ministre est venu plus d'un mois après. C'est donc dire que l'on cherche des prétextes. Mais en fait, pour eux, c'est simple, ils ne veulent pas de la révolution. Ce sont les éléments réactionnaires. C'est normal. C'est la dialectique. Il y a la révolution parce qu'il existe la réaction. Et tant qu'il existera la réaction, il existera aussi une révolution qui se préparera. Si nous cédons la place, ce sera la réaction qui prendra la place. Et nous n'entendons pas du tout céder. Alors, cela était bien organisé pour nous déstabiliser. Et vous avez vu qu'au Ghana, il y a eu, la même période, une attaque. Nous savions que cette attaque avait pour but, nous étions au courant, nous étions informés, et les camarades ghanéens attendaient. Cette attaque avait pour but d'affaiblir le Ghana, ou mieux, de le déstabiliser et de lui mettre un régime nouveau là-bas, et d'empêcher que le Ghana ne puisse voler au secours de l'Ad Volta qui devait être déstabilisé. Et l'on a décidé, l'impérialisme a décidé d'attaquer chacun de nos pays, le Ghana et l'Ad Volta, par les méthodes appropriées. Au Ghana, par les coups de feu, en Volta, par les mouvements syndicaux. Puisque traditionnellement, notre pays est très bouillant, très lumineux du point de vue syndical. Eh bien, cette fois-ci, ils ont trouvé à qui parler. Et nous n'entendons pas nous arrêter là. Nous irons plus loin encore. Si ces apatrides qui reçoivent des soutiens de l'étranger, qui sont manipulés et téléguidés de l'étranger, continuent leur agitation, nous continuons notre agitation. Nous n'avons pas peur d'eux. Et je vous ferai remarquer que pendant que se déroulait la grève, nous avons décidé de ne pas mettre nos troupes en alerte, contrairement à ce qui se fait dans d'autres pays. Nous avons décidé de les laisser faire, de ne pas les arrêter, de les laisser manifester. Ils ont manifesté librement, tranquillement. Nous avons décidé et de leur répondre. Nous avons dit, pendant qu'ils faisaient la grève, moi-même, les ministres, nous étions tout à fait tranquilles, sereins. Et moi-même, je me retrouvais dans les manifestations, en train de discuter avec d'autres, dans les écoles, avec des lycéens qui faisaient leur semaine culturelle, avec d'autres personnes, sans aucun souci. Pourquoi ? Parce que eux, ils ont quelques éléments qui les suivent. Nous avons le peuple. Nous leur avons dit, maintenant que vous avez fini de faire la grève, maintenant que vous avez fini de dire ce que vous vouliez dire, à nous de vous répondre aussi. Et nous avons donné la parole au peuple. Le peuple exige de nous un châtiment révolutionnaire et exemplaire contre cela, parce qu'on les connaît. Et le peuple exige de nous la fermeté sans faille. Et nous savons qu'ils entreprendront d'autres activités. Ils ont essayé d'incendier les magasins de vivres. Parce que ils ont demandé aussi aux sources extérieures qui jusque-là ont apporté leur aide à l'Ad Volta de ne plus nous aider. Et ils veulent incendier les magasins de vivres à l'intérieur pour nous affamer. Ils sauront à qui parler. Et je vous dis que la révolution, si elle n'est pas capable de fermeté, elle devient du réformisme. Et nous ne voulons pas faire du réformisme. Nous allons être fermes. Notre morale n'est pas la morale des autres. Peu importe si autour de nous des gens s'apitoient et se lamentent. D'ailleurs, ceux qui s'apitoient et se lamentent versent des larmes de crocodile parce que eux-mêmes ils étouffent clandestinement tel ou tel opposant. Eh bien, nous n'allons pas les étouffer clandestinement, vis-à-vis et en plein jour, pour que cela serve de leçon.
Monsieur le Président, votre exposé m'amène à vous poser la question de savoir quels sont vos rapports avec la France en particulier et les États voisins dits modérés.
Nos rapports sont bons. Nos rapports sont très bons. Qu'est-ce que... Je ne comprends pas le sens de votre question.
Il se trouve que s'il devait y avoir un débarquement de mercenaires, forcément il devait y avoir une complicité dans les parages.
La complicité est coupable. Les coupables sont châtiés. Donc, nous ne faisons pas de distinction entre les complices et les acteurs. Et tous ceux qui ont pour notre peuple respect et qui nourrissent pour notre peuple des sentiments de solidarité, d'amitié, ceux-là sont les bienvenus. Ceux qui s'opposent à notre peuple, eh bien, le peuple nous a fait confiance et nous a confié la responsabilité de répondre, de traduire ce qu'il veut. Je ne pense pas que le peuple veuille que qui que ce soit vienne l'assassiner. Je crois qu'au contraire, le peuple veut sa sécurité. Donc, le peuple nous donne l'ordre de leur répondre comme cela se doit. Alors, nos rapports avec les pays dits modérés, nous ne pensons pas de modérer en quoi? Modérer en quoi? Je vous demande.
Par opposition à progressiste, disons.
Celui qui ne progresse pas recule. Il n'y a même pas de modéré. Il y a des gens qui reculent et des gens qui progressent, c'est tout. Celui qui ne progresse pas recule. Il n'y a même pas de modéré. Pour nous, c'est comme ça. Et nous ne voulons même pas parler de modéré. Nous disons que chacun a son peuple et résout les problèmes de son peuple. En tout cas, nous résolvons les problèmes de notre peuple de manière révolutionnaire parce que nous sommes des révolutionnaires. Si d'autres estiment qu'il ne faut pas faire la révolution, c'est leur choix. C'est leur droit aussi. Il ne faut rien imposer à personne. Il faut reconnaître la liberté pour chacun de choisir de faire son expérience. Nos rapports sont bons. Nos rapports sont établis sur des bases qui sont des bases de respect. Mais nous n'accepterons pas que l'on vienne nous déstabiliser. Nous n'accepterons pas que, insidieusement, hypocritement, pendant qu'on nous donne on nous dit de bons mots, des paroles toutes mielleuses, l'on cherche à nous poignarder dans le dos. Des Judas, hélas, il en existe encore. Mais quand ces Judas s'apercevront que, en essayant de nous trahir, en essayant de nous tromper, en essayant de nous poignarder, c'est leur propre peuple qu'ils trahissent et qu'ils poignardent, eh bien, peut-être qu'ils auront à repentir. Et même, à moins que ces gens n'aient plus de repentir, parce que il faut avoir un minimum de conscience pour être capable de repentir. Il faut aimer son peuple pour être capable de s'abstenir de toute entreprise qui peut viser à désorganiser, à s'opposer à un autre peuple. Vous savez, la conscience, qu'est-ce que c'est? La conscience, c'est comme une roue dentée qui est dans le cœur de chacun de nous. Cette roue a des dents qui sont bien aiguisées. Chaque fois que nous posons un acte, quand nous-mêmes nous sommes convaincus que cet acte est mauvais, la roue se met à tourner. Les dents nous blessent notre cœur, parce que la roue est au milieu du cœur. Les dents blessent notre cœur, et cela nous fait mal. C'est là que l'on dit que la conscience gronde. Mais il y a des personnes dont les dents de la roue ne fonctionnent plus, sont émoussées. Tellement ces roues ont tourné en raison des crimes qu'ils ont commis, en raison des méchancetés qu'ils ont commises, en raison de l'hypocrisie dont ils ont été coupables. Et c'est, ils ont cette roue en eux. La roue tourne, mais elle ne blesse plus. Ils ne sont plus sensibles à quoi que ce soit. Cela a perdu la conscience. Nous aimons notre peuple. Et notre conscience révolutionnaire nous grondera chaque fois que nous ferons quelque chose contre notre peuple. Et quand on aime son peuple, on doit aimer nécessairement tous les autres peuples. Et nous n'irons jamais contre un autre peuple. Vous avez vu, le Mali et la Volta, il y avait bien dans le temps des difficultés. C'est nous-mêmes qui avons contribué à résoudre ces difficultés. C'est nous qui avons pris les devants. Nous aimons le peuple malien, par exemple, comme nous aimons tous les autres peuples qui nous entourent ou qui sont loin de nous. Nous aimons le peuple français, nous aimons le peuple américain, nous aimons le peuple russe, nous aimons le peuple chinois, nous aimons le peuple australien et tous les autres peuples africains ou non. Maintenant, il y a des gens qui ne nous aiment pas, c'est vrai. Mais quand on regarde bien, ces gens aussi n'aiment pas leur propre peuple. Ils sont des dictateurs simplement chez eux.
Parlons maintenant du problème du Sahara occidental et de son impact éventuel sur l'OIA. Qu'en pensez-vous?
Le Sahara occidental, je crois qu'il n'y a pas tellement de discussion. Pour nous, un peuple a choisi que ce soit sous la forme politique. Il a choisi de se démarquer et d'aller vivre dans une, de vivre dans sa, sur sa terre et de se proclamer, de créer son mouvement de libération, forme politique. Que ce soit sous la forme diplomatique, il a tissé toutes les relations, il a expliqué. Que ce soit sous la forme morale ou même sentimentale, le peuple sahraoui a essayé de dire ce qu'il est, ce qu'il veut, tout simplement ce qu'il souhaite, vivre en amitié et en bonne intelligence avec ses voisins, qu'on lui reconnaisse le droit d'exister. Que ce soit sous la forme ultime, c'est-à-dire il a voté par le sang, il a versé son sang pour le dire. Eh bien, pour nous, la République sahraoui arabe, sahraoui démocratique existe, elle existe bel et bien, elle mérite le respect, elle mérite notre soutien. C'est ce que nous faisons avec nos maigres moyens. Maintenant, l'OUA doit prendre acte de cette réalité. On ne peut pas faire la politique de l'autruche. On ne peut pas se cacher derrière des prétextes, derrière des paravents et nier des réalités qui finissent par crever les yeux. Nous-mêmes, depuis le 4 août, nous aurions pu reconnaître la race. Nous ne l'avons pas fait. Nous avons tergiversé, nous avons pris du temps pour nous informer, pour essayer d'approcher les uns les autres. Nous les avons approchés. Nous avons essayé de faire passer des messages, de rien n'y fait. Eh bien, nous avons compris que le peuple sahraoui a raison depuis longtemps d'avoir créé sa République arabe sahraoui démocratique. C'est nous qui nous étions encore fait des illusions en pensant que nous pourrions encore arranger quoi que ce soit. Nous n'avions pas compris. Maintenant, nous avons compris.
Je vous remercie, Monsieur le Président. C'était un entretien avec le Président Thomas Sankara de Haute-Volta et de sa cellule à Ouagadougou.